Je suis content d'être ici aujourd'hui. Je suis content de venir vous parler. Moi, je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup. Je suis une personne discrète. J'ai toujours été comme ça. C'est assez rare là, que je parle de mes choses personnelles. Fait que pour moi, c'est important de le faire. C'est important d'identifier la fraternité. C'est important de vous dire qui je suis. Alors, moi, je suis un outre-mangeur compulsif. Mon histoire avec la nourriture, elle remonte à très loin. C'est une histoire qui est familiale aussi. Quand j'étais très petit, ça c'est un des souvenirs que ma mère me dit, je me rappelle pas, j'étais trop petit. Elle faisait des desserts et puis j'en mettais beaucoup trop dans ma bouche. Et puis je voulais en manger trop. Tu sais, autour de la table, souvent, quand quelqu'un offre quelque chose, là, les gens vont dire « Ah, donne-moi-en pas trop, pas trop, pas trop. » Moi, je disais « Donne-moi-en trop. » Et puis, dans mon histoire familiale, la compulsion alimentaire, elle est présente partout. Mon père a une longue histoire de compulsion alimentaire. Quand j'arrive chez nous, mon père me dit toujours combien il pèse. C'est une des premières choses qu'il fait en arrivant, quand j'arrive. Mon père a eu une tendance à l'embonpoint à un moment donné, et puis il avait perdu du poids. Il avait repris tranquillement, et il en a perdu encore vers 65 ans, quelque chose comme ça. Et puis, mon père, lorsque j'étais jeune, mon père était toujours sur mon cas, continuellement, à cause de mon poids. Il me disait, il n'y a pas une femme qui va vouloir de toi, il faut que tu maigrisses. Il calculait mes portions. C'était un enfer chaque jour. Si je voulais pas manger mes légumes, il me disait que j'allais avoir un petit pénis. Puis que c'était l'enfer. J'avais toujours mon père sur mon dos, continuellement. Pour ce qui est de ma mère, elle a toujours été une femme très disciplinée dans son alimentation, ce qui fait qu'elle calcule toutes ses portions chaque jour. Elle suit le guide alimentaire canadien. Et puis, son poids, ça va bien, mais il y a toujours un calcul, il y a toujours quelque chose. Et puis, quand on se parle, c'est toujours des choses de maigrissage. C'est toujours comme ça. Ma sœur, elle, a réglé son problème de poids vers la trentaine, et puis elle fait du sport de façon compulsive. Et puis, c'est ce qui a aidé aussi à cimenter son couple, parce que son mari également a la même passion. Alors, ils font du sport, eux autres, puis son poids va bien. Mon frère est obèse, alors avec son épouse, ils ont commencé à faire différents programmes d'amaigrissement. Alors, chez nous, on parle de poids. On parle toujours de ça. Et puis, moi, ma relation avec la nourriture, elle a été un petit peu particulière. Je vous parlais de mes problèmes avec mon père. Moi, j'étais un garçon plutôt efféminé quand j'étais au primaire, au secondaire. Et puis, j'ai toujours eu la tendance à être soupe au lait. Et je me suis fait... C'est même plus agacé, c'était pire que ça. C'était harcelé. Et puis, je pouvais pas en parler non plus dans ma famille, parce que dès que j'en parlais, ça faisait encore des engueulades. Et j'ai été quelqu'un de très frustré, de très renfermé. Et le ressentiment, moi, ça m'a toujours accompagné. Et puis, c'est assez récent que je pourrais vous dire que mon ressentiment s'en va. Et ça, vraiment, c'est la puissance supérieure qui m'a amené à ça, puis je vais y venir un peu plus tard. Mon problème de poids, il est vraiment survenu, moi, au début de la trentaine, j'avais fait un traitement avec des antidépresseurs. Et je suis devenu obèse. Et puis, j'ai pris les moyens qu'il faut, j'ai fait du sport, et puis j'ai fait différents yo-yo. Il y a environ 2 ans, je pesais 210 livres. Alors, j'ai pris tous les moyens, encore une fois, en ma mesure, pour baisser mon poids avec la supervision de mon médecin, puis je l'ai bien fait. Et puis, je faisais du sport vraiment régulièrement. Et puis, ça m'a porté chance parce que je suis retourné dans mon poids santé. Et j'étais très fier de ça. Et j'ai maintenu mon poids santé pendant une bonne année. Et puis, oups, ça commence à monter. Et puis, c'est pour ça que je suis venu vous voir au mois de novembre. Parce que je me disais que si je continuais comme ça, j'allais reprendre tout mon poids, j'allais augmenter encore, puis il n'y aurait pas de fin à ça. Et moi, je vais dans les fraternités depuis plusieurs années parce que j'ai d'autres obsessions et compulsions. Et je m'étais toujours dit qu'il faudrait que j'applique le programme des 12 étapes à la nourriture. Et puis, j'ai dit ça lors d'une discussion dans un groupe, justement au mois de novembre, puis un membre qui m'a dit « Bien, pourquoi tu vas pas à OA? On va y aller ensemble, j'ai une de mes amies qui y va, puis il paraît que c'est super le fun. » Alors, je me suis dit « Tiens, c'est ça. » Et quand j'ai passé la porte ici, je me suis senti accueilli, j'ai senti que j'avais ma place, j'ai senti qu'il y avait des personnes comme moi qui avaient les mêmes problèmes que moi. J'ai aussi observé une diversité, puis j'ai accueilli cette diversité-là, et puis j'ai aimé aussi voir qu'il y avait des personnes qui étaient dans toutes les étapes de leur rétablissement. Puis ça, j'accepte ça, puis je trouve ça beau d'une certaine façon, parce que la personne qui a un surplus de poids, il y a un an, peut-être que son surplus de poids est encore plus important. La personne qui a un poids santé, bien, peut-être que ça ne se passe pas toujours comme elle souhaiterait non plus lorsqu'elle est à l'épicerie ou chez elle avec sa nourriture. Et ça, j'ai trouvé ça le fun, parce que je n'ai pas vu de jugement chez personne. Je n'ai pas eu de questions non plus sur mon histoire personnelle avec mon poids, et j'ai adoré ça. Tu sais, d'être juste un membre, puis d'être présent, je me suis trouvé tout de suite accueilli. J'ai trouvé aussi que la littérature OA, je l'ai trouvée très douce, comparée aux autres fraternités où j'étais, où ils ont tendance à être... Je ne sais pas comment dire, mais je ne me sens pas bien parfois quand je lis d'autres littératures. Chez OA, j'ai l'impression qu'on est accueilli, puis j'ai l'impression que... C'est optimiste. Et quand je viens ici, je viens avec de l'optimisme. Je ne ressens pas de jugement et j'adore ça. Et cette fraternité-là, moi, je sais que je vais la faire pour des années et des années. Je vais peut-être retourner aux autres fraternités aussi, mais maintenant, ma fraternité d'appartenance est ici. Et je me suis fait un parrain ici que j'ai rencontré dès ma première réunion et ça m'a vraiment porté chance. Moi, je voudrais vous parler beaucoup de ma relation avec la puissance supérieure. J'en ai beaucoup à dire. Et puis, je suis quelqu'un qui était très, très, très fermé à la puissance supérieure. Pour moi, la puissance supérieure, c'était pour les personnes qui avaient comme une faiblesse psychologique ou quelqu'un qui est un peu simple d'esprit puis qui croit des choses qui n'existe pas. C'était ça pour moi. Et moi, la raison pour laquelle je pensais ça, c'est que moi, je suis un scientifique dans l'âme. Je gagne ma vie avec la recherche clinique. Pour moi, tout doit être observable, tout doit être vérifiable, sinon ça n'existe pas. C'est la personne que je suis. Ce qui fait que lorsque... Avant d'aller dans les fraternités, j'allais sur les sites, puis je lisais tout ça, puis je me disais que c'était pas pour moi parce que dans aucun cas, je pourrais admettre qu'il y a une puissance supérieure. Et puis, vers l'âge de 37 ans, j'ai tellement été mal en point, j'ai tellement été avec mes autres compulsions, je me suis dit « Tiens, Mario, vas-y ». T'as rien à perdre, vas-y. Ça sera ce que ça voudra, ça sera le bon Dieu, ça sera n'importe quoi, là, vas-y. eux autres, ils ont arrêté de consommer, ils vont te le dire comment faire. Puis je me rappelle à ce moment-là, je vous dirais que c'est la première fois que je me suis dit que c'est possible qu'une puissance supérieure existe. J'avais toujours une petite chanson qui était dans ma tête, une petite chanson très douce. Je me souviens plus de la chanteuse. Ça dit « I don't think I'm gonna make it ». Et puis j'avais toujours ça en tête. Puis ce que ça me disait, ça, c'est « Je suis pas sûr que je vais survivre ». Puis j'avais pensé à ça, puis je me disais « Tu sais, dans un an, si tu continues, tu seras peut-être plus là ». Et puis, c'est comme ça que j'ai connu les fraternités. Et puis, pour moi, admettre qu'une puissance supérieure existait, ça a été très long. Et j'ai peut-être pas rencontré le bon parrain pour ça, parce que lui, il en était convaincu, il cherchait à me convaincre. Ça se passe pas comme ça. Ça arrive pas comme ça. On peut pas convaincre quelque chose. Moi, je résistais à ça, alors c'était pratiquement un conflit que j'avais toujours avec mon parrain. Et puis, tu sais, ici, on a un guide de travail des étapes avec des questions. Moi, dans mon autre fraternité, j'en avais un aussi. Et puis, ce que je faisais, c'est que je répondais aux questions pour éviter les conflits avec lui. J'écrivais ce qu'il voulait entendre. Et puis là, on se rencontrait, là, puis là, je lui disais les réponses qu'il voulait entendre pratiquement avec un sourire. Puis il savait! Il savait que je pensais pas ce que je disais. Et puis, ça s'est pas bien passé avec ça. Moi, l'éveil spirituel, le gros de cet éveil spirituel-là, il s'est fait un jour, après 9 mois de sobriété, j'ai rechuté. Il y avait un miroir juste en face de moi et j'ai rechuté. Et je me suis dit, Mario, si tu avais eu une puissance supérieure dans ta vie, tu aurais pu lui confier ton craving, puis tu ne serais pas en train de rechuter. Et puis, là, je me suis dit, ben là, c'est le temps d'admettre que la foi en quelque chose, ça peut avoir un effet. Et puis, petit à petit, je me suis mis à méditer, à prier. Ça a pris plus de place. Et puis, la relation avec la puissance supérieure à ce moment-là, ce que je disais, c'est que c'est comme une radio qui est parfois juste sur le poste, mais des fois, ça griche un peu. Il faut que tu fasses un petit peu de tuning. Puis, le contact avec la puissance supérieure, parfois, je l'avais quand je priais beaucoup, mais la plupart du temps, non. Fait qu'il y avait comme un apprentissage pour moi avec ça. Et l'abstinence, ça allait très bien aussi à ce moment-là. Et puis, ce qui est arrivé un jour, c'est que j'ai rechuté. Ça fait 4 ans de ça, le 1er janvier. Et ça m'est tombé comme une tonne de briques. Je me suis dit que c'était terminé, les compulsions. Je me suis dit que c'était là que ça arrêtait. Puis, à ce moment-là, je me suis senti rempli de la puissance supérieure. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Je les ai travaillées, les étapes, je les travaille encore avec mon parrain. Il m'aide aussi beaucoup parce que lorsqu'on discute ensemble, on remet toujours ça dans le programme, toujours ça aux étapes. Et puis, ce que j'aime du programme aussi, c'est que ça fait boule de neige. J'ai fait une amende honorable à un de mes ex, et puis, tout ce qui s'en est suivi par la suite, c'était que du bonheur. Moi, je pensais que faire une amende honorable à quelqu'un, tu réglais une situation avec quelqu'un, mais c'est beaucoup plus large que ça. Et cet automne, il m'est arrivé aussi quelque chose de fantastique. J'avais un conflit avec quelqu'un et je me suis mis à prier. Je me suis dit, je ne veux plus jamais, jamais faire de mal à cette personne-là avec mes actes ou mes paroles. Je ne veux plus jamais rien dire à cette personne-là pour le faire sentir mal. ça s'est produit. J'ai senti que j'étais écouté. J'ai senti qu'il y en avait un contact. Et suite à ça, tout a déboulé. Je me suis trouvé avec les gens patients, gentils, accueillants. Et puis, pas que je l'étais pas avant, mais je suis une personnalité un peu renfrognée, un peu bougonneuse sur les bords. Et puis, je me suis dit, tiens, bougonne plus. Arrête de faire ça, ça donne rien. Alors, j'ai eu un changement net depuis cette période-là. Et puis, comme je vous disais, je suis un scientifique. Tout doit être mesurable, tout doit être vérifiable. Mais je les ai toutes les évidences. Je les ai toutes les preuves qu'il y en a une puissance supérieure qui agit dans ma vie, qui m'aide à me rétablir. Et je vous dirais que ma gratitude, bon, la gratitude à la fraternité, ma gratitude à tout, je la vis quotidiennement au jour le jour. Je suis venu aux réunions ici cet automne, cet hiver, à chaque jour où je n'étais pas à l'extérieur parce que je travaille à l'extérieur. Et puis, je me suis senti anormalement heureux, anormalement dans la gratitude, comme je le suis maintenant. Vous sentez ma voix et un peu d'émotion. Et ça aussi, je me dis, c'est vérifiable, ça fonctionne. J'aimerais vous parler aussi de mon abstinence dans le programme Outre-mangeurs anonymes. Au début, ça allait très, très bien. J'ai eu quasiment un mois d'abstinence là, en arrivant. Et j'étais très heureux de ça. Mais par la suite, il y a eu un écart, deux écarts, trois écarts. Puis ça a été un peu plus difficile. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment demandé à mon parrain là, de m'aider. Alors, ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'il m'a envoyé une feuille pour la 10e étape que je fais quasiment chaque soir. Alors, moi, le matin, je fais une prière, je demande l'abstinence de compulsion alimentaire et je demande également de ne pas avoir d'obsession sur les aliments que je ne peux pas manger. Et le soir, je fais ma 10e et puis je vois plein de choses dans ma 10e. Ce que j'ai remarqué dans ma 10e, c'est qu'il y a beaucoup de questions. Et puis, on doit identifier nos défauts de caractère, tout ce qui ne marche pas dans la journée. Puis, à la fin, ça dit, ai-je pleinement consenti à ce que Dieu enlève tous ces défauts? Puis, je dis non! Je n'ai pas consenti à ça. Ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe, là? Ben, je pense que je vais consentir peu à peu, puis avec les semaines, les mois, puis à un moment donné, peut-être que ça va s'améliorer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que mon abstinence, elle va avec ça. Elle va avec ma prière du matin, elle va avec ma 10e, elle va avec venir ici, dans les groupes. Puis ça va bien parce que je suis supporté. Puis, mon but, ça serait d'avoir un peu ce que le programme nous propose. C'est d'en arriver un jour à avoir un poids équilibré, avoir une alimentation équilibrée, être comme tout le monde finalement. Parce que moi, faire des épiceries, me faire à manger, me faire des menus pour la semaine, je l'ai fait dans le passé. Et c'est les moments où j'avais le poids santé. Mais ma vie est complètement déséquilibrée. Elle est complètement... Moi, je travaille à l'extérieur. Pendant des années, je partais le dimanche après-midi et je revenais seulement le jeudi à 10 heures le soir. Tout le temps, j'étais dans des restaurants. Et c'était difficile de maintenir un poids santé. C'était difficile de maintenir une bonne alimentation. Mais ça aurait pu être faisable. J'ai des amis qui font le même travail que moi, puis ils y arrivent. Alors, il y a sûrement quelque chose à faire avec ça. Je vous dis, mon cas n'est pas désespéré, je vais y arriver. Mais je voulais vous dire aussi qu'avec toutes mes pertes de poids, mes choses, moi, je n'avais pas eu d'obsession de sucre qui était obsédante dans le passé. C'était seulement après ma dernière diète où j'ai perdu 45 livres. Depuis ce temps-là, j'ai des obsessions de sucre régulières. J'avais pas ça avant. Écoutez, là, je m'en passerais de tout ça, là. Je la prendrais, là, je la mettrais ici au milieu du groupe, là, puis on la brûlerait ou on danserait dessus ou je sais pas quoi, là. Je m'en débarrasserais de ça. Je sais pas, parce que je suis quand même assez nouveau dans le programme, puis pour moi, c'est un démon à vaincre. Puis je vous dis, j'ai l'espoir d'y arriver. Il y a plein de choses aussi dont je voulais vous parler. Je voulais vous dire aussi que je suis quelqu'un qui a tellement été malmené, qui a tellement été soupaulé, que je suis devenu une personne plutôt autoritaire. Et puis, dans ma carrière aussi, j'ai un rôle d'autorité, et puis, c'est pas pour rien. Et puis ça vient de mes ressentiments. Mes ressentiments, moi, ils étaient gros comme une maison. J'avais des ressentiments par rapport à ma famille incroyables. Et j'avais des ressentiments aussi pour tous les problèmes que j'ai eus qui étaient dus à l'homophobie. J'ai eu énormément de ressentiments avec ça et j'en ai encore beaucoup. J'ai tellement été chanceux. J'ai fait une quatrième et cinquième étape dans un groupe où c'était fait d'une façon intensive. C'était deux fins de semaine. Et puis, croyez-le ou non, il y a des personnes qui bénévolement ont passé des heures avec moi à m'écouter. J'avais une centaine de questions à répondre. Je les ai toutes répondues. Et j'ai trouvé ça magnifique que des personnes puissent m'aider comme ça dans le programme sans rien attendre en retour, sans rien. J'ai trouvé ça fantastique. Et quand j'ai fait ça, quatrième, cinquième étape en même temps, à la fin, je trouvais que c'était comme une laine d'acier qui nettoyait, puis ça fait vraiment du bien, vraiment du bien. Mais à la fin, ça disait, j'avais comme des phrases à lire, j'ai pardonné à blablabla. Puis là, je pardonnais pas tant que ça. Puis c'était correct, garde, j'étais pas là. Puis le pardon, pour moi, c'est quelque chose qui vient de façon successive. Et puis mon père, j'en ai voulu comme un fou. Et puis quand je suis dans le programme, puis dans la gratitude, je ressens plus de ressentiment. Sauf que quand je retourne dans mon triangle de l'égocentrisme, ce qui m'arrive assez souvent quand je suis dans le ressentiment, la colère, puis je sais pas quoi d'autre, là, je dépardonne. Puis là, ben, qu'est-ce que tu veux? Mon père, il me connaît plus que n'importe qui. Puis on a appris à s'endurer, puis jamais je vais le confronter parce que ça donne rien de toute façon. Ça donne rien. Et lui, il a été dans différentes fraternités également, puis il y a eu une espèce d'ouverture d'esprit à un moment donné. Et puis, il sait qu'est-ce que c'est les compulsions. Lui, c'était le jeu pathologique. Et puis, ça a aidé un peu au dialogue après qu'il ait fait des groupes comme ça, mais mini, juste un peu. Mais déjà, c'est ça. Comparé à quelqu'un qui était complètement bouché, c'est déjà ça. Puis, je ne dis pas ça pour parler de mal de lui. Je lui dirais qu'il était complètement bouché. Il dirait oui. Et puis, mon ressentiment, par contre, pour tout ce qui est de la condition homosexuelle, c'est encore une montagne. Puis, je pense que ça, là, c'est ce qui me freine le plus dans mon rétablissement. C'est ça. Puis, j'aimerais ça que ça passe un jour. J'aimerais ça. Puis c'est pour ça aussi que j'en parle aujourd'hui. Parce que je n'ai jamais parlé à personne. Je voulais terminer également avec... avec quelque chose qui m'est arrivé lorsque j'ai fait ma 4e et ma 5e. Ils m'ont donné une petite feuille. Puis cette feuille-là, là, résume un peu toute ma relation avec ma puissance supérieure. Puis mon éveil spirituel, c'est tout écrit là-dessus. Comme je marchais sur la plage au soir de ma vie, je me suis retourné et j'ai vu sur le sable l'empreinte de... Y a-t-il quelqu'un qui veut la lire à ma place? L'empreinte de mes pas. Chaque pas était un jour de ma vie et ils étaient tous là, aussi loin que pouvait monter mon regard. Je les ai tous comptés et je les ai tous reconnus, les jours de joie et les jours d'angoisse. Les pas assurés et ceux qui trébuchaient. Du plus loin que j'ai vu, à côté de mes traces s'imprimait une trace jumelle et qui m'accompagnait jusqu'à mes derniers pas. C'étaient les pas de Dieu qui marchaient côte à côte comme il l'avait promis tout au long de ma vie. Comme un père accompagne son enfant, il avait marché à mon pas. Et comme je regardais ce long ruban de nos traces parallèles, il me sembla voir qu'à certains endroits, il se rétrécissait et que seule une empreinte se lisait sur le sable. C'était l'empreinte des jours plus noirs, ces jours de larmes, de souffrance et de deuil, lorsqu'on se sent très seul et abandonné. Seigneur, ai-je crié, où étais-tu lorsque j'ai tant pleuré? Pourquoi ne marchais-tu plus à mes côtés? Et le Seigneur m'a répondu, mon enfant bien-aimé, l'unique trace que tu vois est la mienne. Car ces moments-là, je te portais. J'ai jamais été tout seul. Alors, merci de votre attention. Je m'appelle Mario, je suis outre-mangeur.